Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, c'est Sophie. On est lundi le 21 septembre. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Écoutez, en fin de semaine, j'ai été vraiment estomaquée, flabbergastée, déçue, vraiment désabusée quand j'ai vu la réaction de certains citoyens, vraiment des citoyens pas de classe, quand M. Legault a annoncé le 18, donc qu'il avait été en contact, bien sûr, avec le chef du Parti conservateur, M. O'Toole, parce que M. O'Toole avait été testé positif à la COVID-19 par précaution. M. Legault avait annoncé qu'il avait passé un test de dépistage et s'isoler à la maison. Mais quand il a écrit ça sur Twitter, M. Legault, je ne sais pas si vous êtes allé voir les commentaires. Il y a eu des centaines et des centaines de gens qui ont commenté ce tweet-là, ce gazouillis-là, et c'est à désespérer de l'humanité. Vraiment, là, c'est décourageant. Alors, je vous cite un des tweets qui m'a vraiment jeté à terre. C'est Éric qui écrit « Ça fait partie du complot du gouvernement. Beaucoup l'attrapent, personne n'est vraiment malade, aucun va en mourir. Certains, dans le fond, ne l'ont pas. » Excellent scénario pour entretenir la peur, 10 sur 10. OK. Puis des messages comme Éric, il y en a plein, là. Il y a plein de gens qui s'en prennent à M. Legault, qui disent que tout ça, c'est juste... Et des gens même qui lui disent « Vous êtes un très mauvais acteur de théâtre. » Et ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs politiciens qui... On sait que Yves-François Blanchet a la COVID, on sait donc M. O'Toole et tout ça. Et donc, il y a plein de gens qui voient là-dedans un complot que les politiciens, ils n'ont pas vraiment la COVID. Ils font juste semblant. C'est toute une mise en scène. Fait que un chef du Parti conservateur à Ottawa et le chef du Bloc québécois, ils se sont parlé au téléphone puis ils se sont dit « Hey, Yves-François, hey, Aaron, on va faire croire au monde qu'on a la COVID. Puis en fait, on l'a pas vraiment. » Comme ça, la population va avoir peur, puis on va pouvoir les manipuler, puis leur insérer une puce 5G avec la collaboration de Bill Gates puis George Soros. C'est hallucinant, c'est désespérant de voir la quantité de cabochons qui croient à ces théories-là du complot et qui propagent ça sur Internet. C'est désespérant. Écoutez, quand votre premier ministre dit qu'il se place en isolement parce qu'il sait pas s'il a la COVID ou pas, pouvez-vous juste vous inquiéter pour sa santé puis laisser faire les théories du complot? Quand je vois ce genre de commentaires-là, puis il y en a des dizaines et des dizaines, hein, des gens qui s'en sont pris à M. Legault, quand je vois tout ça, j'ai juste envie de pousser un grand « ben voyons donc ».
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Il y a eu vraiment des informations contradictoires en fin de semaine. D'abord, il y a eu un article sur lequel je suis tombée qui montre à quel point, qui démontre même à quel point la transmission du coronavirus se fait de façon exponentielle dans les avions. C'est un article où on détaille, évidemment, avant que le masque soit obligatoire dans les avions, à quel point c'est facile de transmettre le virus quand on est dans un endroit fermé comme les avions. Et un autre article où on nous disait qu'il y a différentes compagnies d'aviation maintenant qui, quand on achète un billet avec eux, fournissent en même temps de l'assurance pour la COVID. Fait que là, je me retrouve complètement dépourvue, très ambivalente, en me disant, bon, OK, peut-être que ça me tenterait, en effet, de voyager avec Air Canada, d'aller dans le sud, parce que, bon, là, je serais sûre d'avoir de l'assurance COVID. Puis en même temps, ce texte-là qui nous dit à quel point la transmission se fait facilement dans les avions, je me suis dit qu'on allait pouvoir en parler avec notre chroniqueur du lundi, parce que c'est un amoureux des voyages. Jean-Michel Dufault, bonjour.
Salut Sophie.
Écoute, je voyais sur les médias sociaux l'ancien animateur de radio Michel W. Duguay qui mettait des photos de lui dans un resort à Cancun. Lui, il a pris l'avion, aucun problème, il dit que c'est super sécuritaire, puis il arrête pas de nous écœurer tout le monde avec ses photos du Mexique. Alors, je te pose la question, Jean-Michel, toi, le ferais-tu? Prendrais-tu l'avion pour aller dans un, peut-être pas dans un resort, parce que c'est pas ton genre, mais prendrais-tu l'avion pour aller au Mexique, sachant ce qu'on sait aujourd'hui?
C'est drôle, parce que je suis un peu en train de débattre, là, mon ami, là, ça fait depuis décembre que j'ai pas pris l'avion. On sait pas l'automne qu'on va avoir. Je pense qu'avec les nouvelles, c'est sûr que j'y vais avec des mesures très, très disciplinées de masques, de lunettes et d'assurance. Je pense que s'il y a moyen, comme tu disais, d'avoir une assurance, parce que mon inquiétude, elle est plus de tomber malade à l'étranger que dans l'avion. Je crois que maintenant, dans l'avion, on fait vraiment attention, sauf que, comme tu dis dans l'article de CNN ce week-end, avant que les gens mettent des masques, des cas de transmission, parce que maintenant aussi, puis moi ça fait d'ailleurs, par mon malaise, ça fait un bout de temps que je sais que c'est vraiment les aérosols le plus dangereux. Ça se transmet dans l'air. Et donc, dans les endroits où l'air est vicié, dans l'air est renfermé, c'est dangereux, comme les avions. Supposément qu'ils ont maintenant, ils font vraiment attention au système de ventilation. Le vol avec un masque, être discipliné, faire attention, ne me fait pas trop peur, mais je pense qu'il va falloir avoir des politiques, oui, des assurances pour les voyageurs à l'étranger. S'il y a une maladie, ben on est couvert. Et je pense que ça va rouvrir tranquillement les portes du voyage, parce que sinon, je vois pas comment les gens vont partir l'esprit tranquille.
Oui, parce que c'est quand même un aspect extrêmement important. C'est sûr qu'il y a toujours des têtes folles, hein? On en a vu au cours des dernières années, et j'utilise vraiment le mot tête folle sciemment, là, j'ai aucun problème à traiter ces gens-là de d'hurlu-berlu, des gens qui partent en voyage, puis ils pensent qu'on va brailler sur leur sort parce qu'ils se sont retrouvés à Tombouctou et qu'ils sont tombés gravement malades ou ils ont eu un gros accident, puis là, ils demandent à être rapatriés au pays. Puis là, on dit, ben oui, mais vos assurances. Puis là, il dit, ah, mais c'est parce que je suis parti, mais j'ai pas pris d'assurance. Quelqu'un qui voyage sans assurance, excuse-moi, c'est pas juste niaiseux, c'est fou furieux, là. Oui. Bon.
C'est fou furieux, puis t'es responsable, puis c'est pas au gouvernement et à nous à payer pour ce rapatriement, quand surtout on sait maintenant ce qui se passe. Je suis absolument d'accord avec toi.
Donc, le manque d'assurance a longtemps été un frein. Puis en même temps, je regardais ça en fin de semaine, toutes ces compagnies, donc soit des compagnies d'assurance ou les compagnies d'aviation elles-mêmes qui disent, ben vous pouvez partir, puis là, on va pouvoir, si vous tombez malade, on s'occupe de vous. Je me disais, il y a un côté inconscient quand même, Jean-Michel, parce que au moment où on se parle, Justin Trudeau, il a pas changé les règles. Le gouvernement, les affaires étrangères, dit aucun voyage si c'est pas essentiel. Et en plus, si vous revenez, c'est 2 semaines de quarantaine obligatoire. Donc, est-ce que c'est pas inconscient de la part des compagnies de dire, oh, ben, tenez pas compte du gouvernement, nous, venez nous voir, puis nous, on va vous... C'est faire passer l'argent avant la santé, là.
Un peu, et puis t'as un peu comme dans tout cette façon de gérer cette crise, il y a des fois des signaux qui sont différents d'une part et d'autre, et c'est un autre cas. T'as raison, là on parle de 14 jours, il y en a qui disent c'est 10 jours quand on vient, certains sont surveillés, certains sont pas surveillés. Je suis un peu d'accord que partir juste comme ça, si c'est pas pour le travail, c'est juste des vacances, c'est un peu mal vu, puis avec raison, parce que c'est pas réglé. Donc, par contre, pour des questions de travail, je peux comprendre que dans des cas vraiment lié au travail, ben je pense qu'il faut permettre certains voyages, mais c'est vraiment une zone grise qui est pas claire encore, et surtout qui est pas claire, comme on sait pas à quoi va ressembler l'automne et l'hiver là, 2020-2021.
Mais tu sais, ce serait un petit peu contradictoire quand même. Tu sais, je regarde les bars qui sont obligés de fermer, d'arrêter de servir de l'alcool à partir de 11h, qui doivent fermer à partir de minuit. Nous, on se fait dire, chez vous, pas plus de 6 personnes, alors qu'on était à 10 personnes. Tu sais, le ministre Dubé qui se met quasiment à genoux en disant, s'il vous plaît, faites pas de réunion si vous êtes pas, si c'est pas vraiment essentiel. Essayez d'éviter tout ça. Puis à côté de ça, il y aurait des gens qui diraient « Ah ben oui, on s'en va à Waikiki Coconut parce que moi, je peux pas me passer de mon pina colada puis d'avoir les pieds dans le sable. » Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il y a un côté, ouais, je trouve, un peu nombriliste aussi.
Oui, mais ça, c'est la nature humaine. Hein? Malheureusement, la nature humaine passe plus souvent à elle qu'aux autres, malheureusement. Mais cela dit, je pense que depuis que les politiques sont plus surveillées dans les avions au niveau de la salubrité, etc., de l'air, la qualité de l'air, il y a très peu de cas de transmission qui ont été notés. Donc, c'est pas tant ça, mais c'est la responsabilité. En tout cas, comme tu disais, si tu pars, ben, t'es responsable. Et peut-être qu'il y a moins de risques ailleurs qu'ici. Il y a un risque tout le temps, mais dans les avions, depuis que les politiques là, sont plus sérieuses envers le virus, il n'y a pas tant de cas de transmission de ce que j'ai noté là. Donc, c'est pas tant ça qui est dangereux, c'est vraiment d'être à l'étranger, puis là, de vivre inconsciemment comme si ça n'existait pas, alors que ça existe pas mal partout sur la planète. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des chances de l'attraper ici. Il faut que tout le monde soit discipliné. Et c'est peut-être pas la première urgence que d'aller se prélasser au soleil, là, on est d'accord.
Oui, mais en même temps, il y a plein de gens aussi qui utilisent l'argument psychologique, de dire, regarde, ça fait depuis le 13 mars qu'on est, bon, au début, c'était un confinement évidemment très sévère, après, on a déconfiné, mais il y a quand même tellement d'interdits que tout ça pèse psychologiquement. Et on sait à quel point, je veux dire, les dépressions saisonnières, puis je pense qu'il faut pas minimiser ouais. ça non plus. Tu sais, l'hiver s'en vient, on va vivre des jours très sombres, il va faire noir à 4 heures l'après-midi. C'est sûr que de pouvoir aller dans le sud, profiter de la lumière, ça peut faire un bien énorme au point de vue psychologique. Donc cet argument-là est beaucoup utilisé aussi. Est-ce que, selon toi, c'est un argument valable ou pas?
Ben, je pense que si les gens prennent leurs responsabilités et ne se mettent qu'eux en danger, je pense que je suis capable de vivre avec ça. Mais comme tu dis, c'est pas après ça, s'ils se plaignent, s'ils sont malades, c'est pas à dire « Ah ben le gouvernement a envoyé un avion pour moi seulement parce que j'aime pas comment je suis traité à l'hôpital ici. » Non, non, non. Tu as pris des assurances privées et tu es responsable. Tu es une grande personne jusqu'au bout. Et à ce niveau-là, moi, je peux pas... Tu sais, comme par exemple, personne, je pense, a le goût d'aller vraiment aux États-Unis, quoi qu'il y en a, ça a l'air qu'ils ont malgré tout le goût d'aller en Floride. Mais il y a des endroits de la planète où peut-être c'est même moins virulent qu'ici. Si c'est fait dans des bonnes conditions, si on veut, moi, je suis capable de vivre avec ça. Mais comme tu disais, ben, je pense qu'à ce moment-là, prenez-vous quand même une assurance privée. Soyez logique avec votre décision et je peux vivre avec ça, en tout cas. Moi, ça me dérange pas tant que ça, là, pour l'instant.
Bon, c'est juste que tous ces gens-là vont nous écœurer parce qu'ils vont revenir tout bronzés, tout grillés, alors que nous, on va être blême, qu'on va être gris-vert, voilà. Puis qu'on va être... Mais en fait, ça va être facile de les reconnaître. Tu sais, tu te promènes dans la rue puis tu vois quelqu'un qui a vraiment un visage très, très, très bronzé en plein mois de novembre, mettons, ou début décembre... Ben, t'as même pas besoin de lui demander, avez-vous voyagé au cours des 14 derniers jours? Écoute, je voulais absolument parler avec toi parce qu'on sait, on connaît évidemment ta passion pour les voyages, mais aussi ta passion pour la télévision puis la culture populaire. Tu as regardé le gala des Gémeaux, oui. Sur une note, sur une possibilité de 10, premier gala, donc, post-pandémie, ou en plein dans la pandémie. Tu donnerais une note de combien sur 10?
C'est difficile à dire, mais ben, j'aurais un respectable 7.5 qui est diminué par le fait qu'il y a quand même moins la magie par cette distanciation en salle, ce drôle de climat. Par contre, je trouve quand même qu'ils ont assez bien fait, pas seulement à cause, par exemple, de la première scène avec la réalité augmentée qui était d'ailleurs très bien réussie, mais au moins ils ont mis des gens dans une salle avec la distanciation et c'était quand même moins pire que de ne pas avoir personne et de tout faire par Zoom. Parce que moi, la vie... par Zoom, la vie par écran, j'en peux plus. Je suis
capable.
Me déprime maintenant de voir tous ces films. Et c'est drôle parce que même les Emmys, de l'autre côté, chez nos amis américains, avaient beaucoup plus, je trouve, de Zoom. Et ça faisait encore, on était encore comme avant, c'était déprimant. Donc, en général, j'ai quelques petites notes, là, je peux y aller rapidement.
Ouais, vas-y.
Il y a toujours une relation amoureuse avec ces galas-là parce que c'est une grosse infopub pour la télé, pour la télévision. Ça se lance des fleurs, ça se vante. Donc, c'est comme... Tu sais, la télé, oui, c'est formidable, mais la télé, c'est pas toujours formidable non plus. Cette boîte-là, elle est dangereuse. S'il y a un président américain qui s'appelle Donald Trump, tout le monde le sait, c'est à cause de la télé qui l'a fait connaître avec The Apprentice. C'est la télé qui a construit ce personnage et qui a menti comme si c'était un homme d'affaires qui avait du succès et qui avait toujours eu du succès. C'est la télé qui est responsable de Trump aux États-Unis. C'est la télé qui nous a vendu des gens au dragon qui n'étaient pas si bons que ça. Donc, la télé aussi, tu sais, ça se oui. vend, ça se vend, mais donc ça. Quand même, des efforts, j'ai quand même noté que je trouve que Véro, en général, est toujours bonne. C'est difficile de faire de l'humour quand il y a moins de gens dans la salle, quand il y a plus de silence, mais en général, elle a fait une bonne job. On a mis plus de gens de couleur, ça, je trouve ça bien aussi. Il y a eu
oui,
une
alors...
à ce niveau-là.
Oui, alors attends, attardons-nous un petit peu là-dessus, parce que c'est sûr que dans la catégorie des nominés, des personnes en nomination, il y avait très peu de diversité, pour pas dire pas du tout, et ils ont fait un effort. Comme par exemple, quand on a fait une chanson en hommage aux gens des nouvelles, ben il y avait Louis-Jean Cormier, et il était accompagné de Mariem et de Mélissa Bédard, donc qui sont deux femmes noires, en plus d'être des super super bonne chanteuse là. À un moment donné, il y a un prix qui a été présenté. C'était Monsieur Fayol.
Fayol Jean et son junior.
Voilà, exactement.
Qui est avec Laurent Duvernay-Tardif. Donc voilà. À ce niveau-là, je trouve qu'il y a eu des efforts au niveau des présentations. J'ai mis le petit clin d'œil aux gens un peu plus âgés, mais encore là, je trouve que c'est dangereux. On fait de l'âgisme d'une autre façon. Eux, on les met en zoom, on les met toujours à travers un écran. C'est un peu la même chose cet été dans le show de Jean-Philippe Vautier, qui était sympathique, mais c'est comme si, oh, ils sont tellement vieux, ils sont pas capables de se déplacer. C'est vrai, puis c'est pas vrai. Je sais que c'est pour cette capsule-là, hier, il y avait l'idée de l'entrevue avec des gens, avec des jeunes, mais aussi, il faut pas juste les mettre via zoom, les gens un peu plus âgés, il faut les inclure dans le party.
Oui, mais attends deux secondes. Oui. Attends deux secondes, Jean-Michel. C'est qu'une des raisons pour laquelle on les met en zoom, c'est parce qu'ils sont plus à risque. Donc, c'est sûr que tu veux pas que Shirley Theroux ou Patsy Galland contractent le coronavirus, parce qu'on le sait, plus les gens augmentent en âge, plus le virus peut être fatal. Donc, c'est vraiment c'est pour les protéger, là.
C'est vrai, mais je pense que des fois, il y a quand même une zone grise entre l'âgiste commence à quel âge l'âgiste commence, à quel âge ça devient vraiment dangereux. Mais tu soulignes un bon point, absolument. Rapidement, c'est pour ça que je t'aime, Thierry, que j'ai beaucoup aimé, content qu'elle ait remporté des prix. Mais pour moi, la
Ah, je pensais que tu me disais. Je pensais que tu me parlais en disant c'est pour ça que je t'aime. Oh, je suis déçue. Vas-y, continue.
Aussi, une des vedettes, c'est Luc Dionne. Je veux dire, la charge de travail de Luc Dionne.
Incroyable.
C'est incroyable. Je veux dire, les gens ne se rendent pas compte ce que c'est de pondre, c'est quoi, c'est presque 2 heures de texte par semaine. Ça n'a aucun sens. C'est un surhumain et bravo pour ça. Juste quand même, mettre un petit pavé à la mare. Tu sais que la Berlinale, cette année, ce grand festival de films de Berlin, qui a été fondé en 1951, ne fait plus de prix genrés. Elle fait maintenant des prix non genrés. Et ouais. Je me posais la question, je me disais, est-ce qu'un jour les acteurs et les actrices seront dans la même catégorie et gagneront leur prix? Parce que les gens derrière l'écran, on fait pas de prix genré pour la réalisation, la direction photo.
C'est vrai. Ça.
Mais devant l'écran, on est genré. Donc, je pose juste la question, est-ce que tu as l'impression que ce mouvement... En tout cas, la question se pose. C'est intéressant ce que Berlin a fait. Ça a fait quand même réagir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir? Évidemment, ça veut dire moins de prix. Alors peut-être que ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est un petit clin d'œil quand même. Je regardais ça hier, je me disais, on est encore dans le vieux modèle prix femme, prix homme.
Oui, puis moi je trouve ça intéressant ce débat-là, sauf que ce débat-là il est motivé disons par toute cette mouvance qui dit, ah ben le genre c'est une invention, c'est une construction sociale, moi si je me lève demain matin puis que je considère que je suis non-binaire, ben je vais demander est-ce que tout le monde parle de moi à la troisième personne et que je veux utiliser, je n'utiliserai plus de pronoms masculins ou féminins, parce que qui êtes-vous pour me dire que je suis une femme? Je suis rien du tout. Ce que je trouve un petit peu une construction de l'esprit plutôt qu'une construction sociale. Donc, la discussion peut être intéressante. Mais imaginons que... on fait en effet un prix non genré aux Gémeaux, ok? Donc Gilda Roy se retrouve dans la même catégorie que Catherine Proulomé, mettons, ok, d'accord? Alors, mettons que une année, tous les prix meilleurs comédiens sont remis à des gars. Le premier prix de soutien, comédien de soutien, rôle principal, comédie, dramatique, tous les prix, c'est des gars. Ben là, je te jure qu'il n'y a plus personne qui va trouver que c'est une bonne idée d'avoir des prix non genrés. Parce que dans le fond...
C'est juste dans le fond, oui.
Non, mais c'est ça, c'est que dans le fond, ça part d'une supposément bonne intention, mais il y a un agenda social et politique derrière ça. C'est que si, par hasard, tous les prix sont remis à des gars, ben là, tout d'un coup, on va trouver que c'est pas une bonne idée, puis on va trouver que finalement, le genre, c'est important.
Oui, exactement, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Je dis pas qu'il faudrait le faire. Je trouve juste ça intéressant que ça a été quand même fait en 2020 dans un festival prestigieux. Et je me demandais, est-ce que ça, c'est un début de mouvement ou c'est juste un cas isolé et ça va arrêter là? Et dans le fond, je me posais la question, qu'est-ce que les gens en pensent? Moi, Je suis pas certain que c'est une bonne idée, mais je trouve ça intéressant parce que, comme tu dis, dans cette mouvance de gens qui disent il faut arrêter de genrer, il faut arrêter d'avoir un mot pour les femmes qui sont écrivains et un mot pour les hommes qui sont écrivains, il faut arrêter de... Donc, je me disais, est-ce que cette logique-là, elle va jusque-là ou non? Où est-ce qu'elle commence, où elle arrête? C'était plus à ce niveau-là, cette réflexion, parce que récemment, là, au mois d'août, Berlin a débuté oui. cette façon de penser différemment au niveau du travail des acteurs et actrices.
Oui, c'est ça.
Le petit clin d'œil par rapport à
elle. Et il faut préciser quand même que ça s'applique uniquement acteur-actrice, parce que si je regarde toutes oui. les autres catégories aux Gémeaux qui sont des catégories devant l'écran, comme animateur d'un magazine culturel ou animateur de variété ou animateur de quiz et tout ça, les filles et les garçons sont en compétition les uns avec les autres. Véronique Absolument. Va être en compétition avec Guilla, ou je sais pas moi, Sébastien Absolument. Diaz va être en compétition avec bon un autre là, je manque de noms là parce que mais donc dans non, toutes sortes de catégories, les gars et les filles sont, tu sais, mais je veux dire, mettons meilleur animateur d'un bulletin de nouvelles là en information. Oui. Ben là, ils sont devant l'écran et pourtant on fait pas de différence entre les filles et les garçons. Sophie voilà. Thibault est en compétition avec Patrice Roy. Donc c'est de se poser plutôt la question pourquoi on le fait pour les comédiens et qu'on c'est le fait ça. Pas dans les autres catégories de métiers devant
Exactement.
L'écran.
Exactement. Écoute, même à base. C'est ça. Pourquoi c'est vraiment dans les rôles de composition.
Voilà, c'est ça. Alors, écoute, tu voulais prendre quelques instants pour nous parler de la fameuse RBG qui est décédée au cours des derniers jours. Alors, présente-nous qui est cette femme si importante aux États-Unis.
Ben d'ailleurs, j'invite les gens à regarder, on le remet le documentaire qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle RBG, justement, qui raconte le parcours quand même étonnant de cette petite femme de Brooklyn, de milieu 5, qui a fait des études supérieures, qui a vraiment brisé des barrières. Carrière exceptionnelle, une vraie battante pour l'égalité des sexes, et dans les deux sens, elle s'est battue pour les femmes, mais elle s'est aussi battue pour certains hommes, dans certains cas, qui devenaient hommes monoparentales, qui avaient élevé les enfants et qui n'avaient pas d'avantages sociaux. Donc, bravo, elle s'est battue toute sa vie. Donc, une œuvre importante, une femme extraordinaire. Seul petit truc quand même qui a été noté, elle a été nommée sous Clinton, et elle déjà était assez, elle commençait à être âgée. Elle a fait donc longtemps. Elle est morte cette année. Elle avait 87 ans. Et depuis quelques années, et surtout sous le règne d'Obama, un président démocrate, des gens disaient, ça serait peut-être le temps de te retirer. Comme ça, Barack pourrait nommer quelqu'un comme toi de progressiste, un peu avec des idées un peu plus de gauche, et protéger cette Cour suprême qui va toujours un peu plus à droite qu'à gauche. Et elle a tenu à tenir son rôle jusqu'à la fin. Mais ce pari a été risqué parce qu'avec ce qui se passe présentement, mais si oui. elle avait donné son siège avant l'élection de Trump, on ne serait pas dans ce marasme politique dans lequel on va être dans les prochaines semaines, où Trump va essayer de nommer évidemment quelqu'un de très, très de droite. Et donc, tous les acquis pour lesquels elle s'est battue. Donc, c'est juste un peu intéressant de constater que ça, est-ce que ça a été une décision un peu égoïste de dire « moi, je vais rester jusqu'à la fin » alors qu'elle était très malade, et qu'elle aurait pu, au deuxième mandat de Barack Obama, dire « je cède mon siège, j'ai fait ce que j'avais à faire et donnons la place à une plus jeune qui, elle, va continuer nos politiques importantes, progressistes, qui défendent les femmes, qui défendent les opprimés et qui ne sont pas à droite à cette vieille Amérique. » Et je trouve juste que ça, c'est pas tant mentionné et que ça aurait dû être un peu plus mentionné. Cela dit,
c'est une bonne question.
Femme, un parcours exceptionnel et c'est juste ça que je voulais mentionner parce que regardez ce que ça va être dans les prochaines semaines.
Hey boy.
Exactement. Et ça va être la guerre, là, je veux dire, à l'interne. Et puis, on espère qu'il y aura plus de sénateurs républicains qui vont défendre et dire non, ça devrait être le prochain président qui va nommer le ou la prochaine juge, parce que c'est la cour d'instance la plus importante du pays, il faut le rappeler.
Mais c'est intéressant, donc, Ruth Bader Ginsburg est vraiment devenue, avec les années, une figure iconique, là, tu sais, c'est vraiment, là, aux États-Unis, tu sais, il y a des macarons, il y a des tasses, il y a des t-shirts RBG, c'est vraiment particulier, parce que tu te dis, quel job plate être juge à la Cour suprême aux États-Unis, mais elle est vraiment devenue, et je regardais, par exemple, sur mon compte Instagram, en fin de semaine, la quantité de gens de tous les domaines qui lui rendaient hommage et dans certains cas reprenaient certaines de ses citations célèbres. À un moment donné, elle avait dit à propos des femmes, elle dit « On ne demande pas à nos pères de nous donner un traitement spécial parce qu'on est des femmes. On vous demande juste d'enlever le genou que vous avez sur notre cou et qui nous empêche de respirer. » c'est drôle parce que c'est un petit peu la méthode George Floyd, mais cette image-là très forte de dire, ben, on vous demande pas un traitement spécial, je veux juste que vous arrêtiez de nous étouffer. Et à un moment donné, elle a dit aux États-Unis, elle a fait une déclaration, elle dit, on lui a demandé combien de femmes vous pensez que vous allez être content, s'il y a, quel nombre de femmes siègent à la Cour suprême, et elle a répondu 9. Donc il faudrait que... on lui a dit, voyons donc, ça n'a pas de sens que tous les juges à la Cour suprême soient des femmes. Et elle a répondu, ben, pendant des années, il y avait juste des hommes, puis il n'y a personne qui trouvait ça problématique. Donc, une femme avec une répartie extraordinaire, un jugement fabuleux, et des fois des réponses toutes simples à des questions où on essayait de la prendre en défaut. Mais donc, une grande féministe comme on les aime, vraiment un héritage extrêmement important.
Oui, et juste aussi, ça rappelle, comme tu dis, une grande féministe, et c'est incroyable, on a tendance à oublier, mais on regarde, elle, quand elle était étudiante, elle arrivait dans les bureaux de New York où on disait, on n'engage pas de femmes, les bureaux d'avocats qui disaient, ici, on n'engage pas de femmes. Ça fait pas si longtemps que les choses ont changé, et c'est grâce à des femmes comme elle que les choses ont changé, et bravo, parce que tu es une vraie féministe, et une vraie pour l'égalité des sexes, et une vraie femme de tête, d'intelligence, formidable. Alors, c'est à voir ce documentaire pour mieux comprendre le personnage. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant.
Parfait. Ben merci beaucoup. Puis on va conclure ça en disant RIP RBG. Merci beaucoup, Jean-Michel.
Merci. Bon lundi. Bonne journée.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
On va dire les vraies affaires, les nouvelles, évidemment, sont pas super bonnes au Québec. Quand il y a 3 régions qui sont passées en alerte orange, on se doute bien que les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais il y a aussi des exemples assez flagrants de relâchement qui nous indiquent ben, que les Québécois sont un petit peu en train d'abdiquer devant la COVID-19. Vous avez sûrement vu les images en fin de semaine dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, de ces RPA, là, une résidence pour aînés, où des gens ben, portent le masque sous le menton, sous le nez, respectent pas la distanciation sociale. On va en parler avec Maître Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades. Maître Brunet, bonjour.
Bonjour Sophie.
Quand vous avez vu ces images-là de préposés ou d'employés et de résidents aussi qui ne portent pas le masque comme il faut et qui respectent pas du tout la règle de distanciation sociale, ça a été quoi votre réaction, Maître Brunet?
Ben, c'est une réaction mixte à la fois, comme vous le dites vous-même, on s'aperçoit que les gens, il y a un relâchement surtout dans les endroits les plus à risque, qu'il s'agisse d'endroits festifs pour les jeunes ou d'endroits où on abrite, où on admet des personnes plus âgées avec des maladies chroniques. C'est là où on le sait, les drames sont survenus parce qu'on aurait dû savoir que c'est là où il fallait intervenir en premier. Mais comme vous le dites si bien, il y a un relâchement et c'est important que les gens sachent combien c'est important et combien c'est sacré. On devrait pas faire aucune exception, et on devrait avoir du personnel qui est au courant et à qui on fera des rappels. Aussi, aux résidents, je sais qu'il y a des personnes qui sont certainement capables de marcher, d'errer dans les lieux de la résidence, et à qui on devra malheureusement dire, il faut pas que vous circuliez autant que vous le faisiez avant. C'est important. Et on s'en rend pas compte, mais on crée nous-mêmes ce relâchement-là, puis on le propose sans le dire aux gens autour de nous. Il faut le rappeler, c'est important, c'est une guerre à livrer, et si on fait pas attention, on va la perdre.
Ouais, et il faut pas être trop alarmiste, être suralarmiste, mais en même temps, faut être lucide. On se rappelle dans les résidences pour aînés, dans les CHSLD, au début, le problème, c'est qu'il y avait pas de masques appropriés, il y avait pas suffisamment de ce qu'on appelle les PPE, les protections individuelles. Mais là, on est dans une situation où tout le personnel a de l'équipement de protection, mais il le porte pas. Un, ou il le porte pas comme il faut. Fait que c'est un peu frustrant, vous comprendrez, Maître Brunet, parce qu'on se dit, ben là, vous vous êtes tellement battu, puis vous êtes tellement plaint qu'il n'y avait pas l'équipement approprié. Là, c'est pas le temps de l'avoir, puis de le porter tout croche.
Effectivement. Et il faut le rappeler, je visite de temps en temps des CHSLD publics, surtout. Et là où je suis allé, c'est assez respectueux et assez rigoureux. Et peut-être que du côté privé, il y a un certain relâchement, mais ça prend des boss, ça prend des gens qui savent ce qu'il faut faire pour former et informer les gens, rappeler les consignes 100 fois sur le métier, hein, refaisons notre travail. Il faut que les autorités continuent parce que, comme n'importe où ailleurs, l'être humain a tendance à oublier puis à pas penser que ça va y arriver, mais c'est tout le monde qui est visé et chacun d'entre nous sommes visés. Moi, je suis dans un bureau, j'insiste pour que les gens qui circulent mettent leur masque. Une fois ici dans le bureau tout seul, c'est une chose. Mais dès qu'on sort du bureau, il faut porter le masque. C'est une question de respect et de sécurité pour tout le monde.
Oui. Je pense à cette histoire, Maître Brunet, qui a beaucoup fait jaser la semaine dernière. C'est quand le ministre Dubé avait dit faussement qu'il y avait une coiffeuse à Thetford Mines qui s'était promenée dans différentes résidences pour aînés, sachant qu'elle avait la COVID et qu'elle l'aurait donc transmis à différentes personnes. Après, on a appris qu'elle ne savait pas, donc elle était asymptomatique. Elle savait pas qu'elle l'avait, mais il reste qu'elle s'est promenée quand même dans différentes résidences danse pour aînés, qu'elle a coiffé des gens là-bas. Oui. Et on a tous eu un pincement au cœur parce qu'on sait qu'au début de la pandémie, c'est dans les résidences pour aînés et auprès des CHSLD qu'il y a eu le plus de cas. Donc, comment expliquez-vous que le message se rende pas? On a tellement eu peur, puis il y a tellement eu des histoires sordides. Comment se fait-il que cette image-là nous ait pas plus pris au cœur et qu'on soit pas plus vigilant aujourd'hui?
Ben parce que on oublie et on fait pas attention. Si tout le monde a le droit de se faire coiffer dans les centres d'hébergement puis dans les RPA, on en convient. Mais le personnel, qu'il soit du personnel salarié de l'établissement ou les fournisseurs externes, devraient tous et toutes porter le matériel, le masque, dans certaines situations, même la visière. Alors, c'est un oubli de l'administration parce que qu'elle soit asymptomatique, je veux bien, qu'on corrige les faits qui sont mentionnés par le ministre très bien. Mais il n'y a pas de raison que les gens qui viennent offrir des soins, des services de l'extérieur ne portent pas le matériel de protection. Mais tu sais, Sophie, on n'a pas formé le monde à la pandémie, alors que depuis 2013, les agences de santé se tiraient aux autorités. Fait qu'on est un peu tout croche, mais on commence à se relever et il ne faut pas oublier le plan Dubé du 18 août avec les 7 objectifs. Pas de transfert, porter le matériel, avoir du monde suffisamment informé, formé. J'espère que les 10 000 nouveaux préposés sont formés pour les pandémies, ça j'en doute, parce qu'on les a pas formés non plus sur les droits des usagers, le droit à la dignité. Fait que, et on fait des choses, et je veux bien là, croire à la bonne volonté des personnes qui se lèvent le matin pour dire comment on va écœurer les patients. J'essaie juste de dire qu'on est un peu tout croche, ça coûte très cher, on n'était pas planifié, on n'était pas organisé, on n'a pas fourni de matériel. Est-ce qu'on en a assez aujourd'hui dans les résidences privées? Je l'espère. On prend pour acquis que c'est le cas et que les gens sont formés. Il faut former le monde sur comment porter. Il y a un gros programme de formation avec un diplôme, imaginez-vous,
mais oui,
au CHUM à Montréal pour les gens. Alors, c'est ça qu'on aurait dû faire depuis longtemps. On l'a pas fait.
Mais je vous sens très en colère, Maître Brunet, et avec raison. Je veux juste revenir sur ce que vous m'avez dit, parce que c'est un petit peu passé entre les lignes, mais je veux vraiment que vous nous disiez ce que vous pensez de ça. Vous nous avez dit que les gens, les 10 000 préposés aux bénéficiaires qui commencent donc leur travail, qu'ils n'ont pas été formés pour respecter la dignité des patients. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben, Sophie, tu sais, c'est le fun de dénoncer, mais on peut faire aussi de la pédagogie. Et j'ai offert au ministère de la Santé que le Conseil pour la protection des malades qui donne déjà des formations sur les droits des usagers pourrait faire un crash course d'une heure sur les droits des usagers pour montrer aux nouveaux employés que les usagers ne sont pas des objets de soins, mais des sujets, des personnes à part entière. Et ça, ça fait une différence quand on donne cette formation-là. Puis on m'a dit, merci de l'information, M. Brunet. Bon, allez vous faire paître. Alors, on
a vous sérieux? Ah non, je veux juste... Non, c'est important, là, ce que vous me dites. Maître Brunet, vous me dites aujourd'hui que vous avez offert, puis c'est pas compliqué, là, une heure de formation sur... Ouais. Je sais pas combien d'heures de formation ils ont eu au total, là, plusieurs semaines, que vous avez offert juste une heure pour qu'on parle de la dignité des patients, et ça vous a été refusé par Québec.
On m'a dit merci pour l'information. Fait que, tu sais, on va être encore là, dans quelques années, à blâmer, puis à dire que le personnel est mal formé, puis c'est pas que les gens ont des droits. Oui, mais c'est parce que là, on a une occasion de le faire, en tout cas, on l'avait, puis on ne l'a pas prise. Fait que c'est toutes sortes de petites choses qui, malheureusement, depuis toutes ces années où je porte parole, Sophie, je les ramasse. À un moment donné, je me choque parce que c'est année de répéter, tu sais. Alors, mais voilà, c'est ça la situation, puis on va continuer à déplorer et à dénoncer le fait que des gens ne sont pas respectés, parce que souvent, c'est le fun de dénoncer, mais ça aurait été bien de faire de la pédagogie où on en avait l'occasion.
Et moi, je trouve ça, je n'en reviens pas. Je m'attendais pas du tout à ce que vous me disiez ça. Et non, mais Maître Brunet, les deux bras m'en tombent. Parce que c'est pas comme si vous aviez pas une expertise dans ce domaine-là. Ça fait des années qu'on vous entend, Maître Brunet, comme ambassadeur, comme porte-voix pour ceux qui n'en ont pas de voix au chapitre. Oui. Et c'est quelque chose qui est tellement clair, qui a tellement été mis en lumière au pire moment, aux heures les plus sombres de la pandémie, à quel point, justement, la dignité des malades, la dignité des personnes âgées n'était pas respectée. Ça me tue ce que vous me dites, que vous ayez offert vos services et que ce soit une fin de non-recevoir. J'espère que Monsieur Dubé, le ministre Dubé, va entendre cette entrevue. On va s'arranger pour contacter son cabinet pour que il entende ce que vous avez à dire et qu'il réagisse à ça, parce que ça n'a aucun sens, Maître Brunet.
Sophie, je suis d'accord avec vous et il y a bien d'autres affaires.
Alors, dites-moi, c'est quoi les autres affaires? Ben, oui. Non, mais c'est parce que moi, je prends des notes.
Mais Sophie, tu sais, ne pas transférer le personnel dans les unités puis dans les autres établissements, ça fait partie de la formation du personnel pour la pandémie. Mais comme personne n'a été formé pour la pandémie depuis 2013, bon, on a commis des erreurs. Mais soyons un peu positifs ce matin, Sophie. Convenons que si on respecte le plan Dubé, les 7 objectifs, les 7 affaires qu'ils n'ont pas faites, on devrait être mieux, on devrait être mieux organisé, mais il faut, et je pense qu'on peut revenir au sujet de départ, c'est-à-dire que dans les résidences personnes âgées, il y a un certain laisser-aller, peut-être qu'il manque de supervision, il faut rappeler au personnel puis aux résidents de faire attention, d'être prudent entre nous et pour les autres aussi, quand Absolument. On revient à la maison et quand on se déplace avec la famille. Moi, j'insiste pour que les proches aidants qu'on a finalement réhabilité, prennent toutes les mesures possibles pour se protéger et protéger le personnel et les gens qui habitent dans les résidences personnes âgées, entre autres.
Alors, je veux bien être positive, mais ça, j'adore ça que vous soyez aussi dans un mode solution.
Ça fait...
Non, mais j'adore ça, puis je vous en félicite. Donc, je vais vous poser la question de façon beaucoup plus succincte, Maître Brunet. On n'arrête pas de parler de la deuxième vague qui s'en vient. Disons-le clairement, là, on a les deux pieds dedans. Est-ce qu'on est, selon vous, selon votre évaluation, parce que vous avez des antennes partout dans tout le réseau de la santé, on est prêt ou on n'est pas prêt?
Je pense qu'on est plus prêt que la première fois, mais quand j'entends des témoignages, quand je lis, je viens de recevoir un courriel ce matin d'une
Allez-y.
Dame qui se plaint qui est dans un CHSLD. Le personnel ne porte pas les masques comme il le faut. Les gens se promènent d'une unité à l'autre. Alors, je comprends que c'est peut-être anecdotique, mais des fois, quand on reçoit une information à cet effet, ça veut dire qu'il y en a d'autres ailleurs. Et c'est pour ça que il faut être extrêmement prudent et rappeler au personnel et aux autorités de rappeler. Je sais que c'est fatigant à rappeler, mais il faut le rappeler. L'être humain étant ce qu'il est, il oublie, puis il néglige, puis là, il est pressé, puis là, ça changera. Non, ça va changer des affaires si vous êtes sérieux puis rigoureux. Sinon, on va encore se retrouver dans une vague comme au printemps, j'espère, un peu moins désorganisé qu'on a été.
Oui, mais en même temps, Maître Brunet, si, en effet, vous recevez un courriel d'une personne qui parle d'une situation dans un CHSLD, il y en a peut-être 10 ou 12 où la même situation se produit, mais ces gens-là n'ont pas le temps ou n'ont pas le réflexe de vous écrire. Donc, on peut dire c'est anecdotique, c'est juste un. Oui, mais c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Il y en a peut-être 10, puis 20, puis 30. Donc, il faut absolument être vigilant. Maître Brunet, en terminant, parce que je sais que vous avez un rendez-vous, donc je dois vous libérer. Est-ce que vous pensez, de façon globale, que le système a suffisamment appris les leçons de la première vague? Parce que vous nous parlez des 7 points du plan Dubé dévoilé au mois d'août. Est-ce que on a fait une bonne évaluation? Parce que c'est pas tout de dire est-ce qu'on se prépare, parce qu'il faut avoir tiré les bonnes conclusions de ce qui s'est passé à la première vague. Est-ce qu'on les a bien analysés, ces résultats-là?
Oui. Ben écoutez, si je relis le plan Dubé, je pense qu'il y a là un résumé de ce qui a été mal fait ou pas fait, et qu'en conséquence, on devrait être mieux préparé. Et j'ai pas de raison de croire qu'on ne s'y sera pas préparé à la deuxième vague, mais il est possible que, peut-être à la marge, mais de façon minoritaire, il y a des endroits où on doit être un peu plus sérieux, un peu plus rigoureux. Et c'est ça qu'il faut rappeler constamment à tout le monde, puis vous autres, les médias, vous êtes bien placés pour le faire, le rappeler constamment. C'est une guerre qu'on est en train de livrer. L'ennemi, il est l'ennemi de tous à travers la planète. Et si on n'est pas plus rigoureux puis qu'on fait pas plus attention, on va avoir encore de la misère puis on va en subir les conséquences économiques, physiques,
psychologiques.
C'est important, Sophie. Oui.
Ouais, absolument. Maître Brunet, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président du Conseil pour la protection des malades et j'aimerais rajouter ambassadeur en chef de la cause des personnes qui n'ont pas voix au chapitre. On va s'assurer que le contenu de cette entrevue parvienne aux oreilles du ministre Dubé pour qu'on ait des explications à ce sujet-là. Comment se fait-il que vous avez offert vos services et que ça n'a pas été retenu? Une fin de non-recevoir pour l'instant. Merci beaucoup, Maître Brunet.
Merci.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
Il y a une chose qui est ressortie de cette crise de la pandémie qu'on vit depuis le mois de mars, c'est l'importance de prendre soin de notre santé mentale. Et c'est pour ça qu'il y a un organisme qui est très, très important au Québec, c'est l'organisme des impatients, qui offre des ateliers de création à plus de 850 personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Chaque année, habituellement, il y a une exposition des œuvres des impatients pour permettre de ramasser des sous. Puis cette année, évidemment, COVID oblige, ça va se passer différemment. On va en parler avec Frédéric Palardy, qui est directeur général des Impatients. Bonjour, Monsieur Palardy.
Bonjour, Madame Durocher. Merci de m'inviter à votre émission.
Ben écoutez, ça me fait plaisir parce que les impatients, depuis plusieurs années maintenant, c'est vraiment une cause que les Québécois ont vraiment à cœur. Expliquez-nous ce que vous allez faire cette année pour ramasser des sous, parce qu'on sait que pour plein d'organismes, c'est devenu très, très difficile de ramasser des sous.
Oui, c'est sûr que COVID oblige, on doit s'adapter. Alors, pour la 22e année, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une exposition en camp qui incorpore, en fait, les œuvres créées en atelier de Montréal avec des dons de collectionneurs. Donc, des dons, on peut avoir des Riopel, on peut avoir des Shepherd Fairey, Tousignan, etc., et plus de 130 artistes professionnels du Québec. On combine le tout et on fait un encan qui a plus de 330 œuvres. Donc, on expose sur les murs et à la fin, habituellement, il y a un encan à la criée. Maintenant, COVID oblige, le tout se fera en virtuel. On en a fait un petit... je dirais au mois de, j'oublie les mois parce que les mois vont vite, mais pendant la pandémie, et ça a très bien fonctionné. Je dois avouer que le public est là, le public nous connaît un peu, et c'est notre 22e édition, donc on compte cette année encore avoir un grand succès.
D'accord. Donc, vous dites que on va pouvoir voir les œuvres elles-mêmes. Par contre, pour l'encan, ça va se faire en ligne à cause de la COVID. Monsieur Palardy, la raison pour laquelle je voulais aussi vous parler aujourd'hui, bien sûr, je voulais que les gens soient au courant de ce que vous faisiez, parce que des fois, les gens pensent que, bon, c'est la pandémie, donc il n'y a plus aucun événement qui a lieu. Ça, c'était la première raison. Mais la deuxième raison, c'est que, justement, depuis cette COVID, on n'a jamais autant parlé de santé mentale ou de détresse. Est-ce que vous, auprès des gens qui sont les impatients, est-ce que vous notez justement plus de détresse?
Mais fait assez étonnant. Vous voyez, on a cessé nos activités en atelier durant plusieurs mois, mais on n'a jamais cessé nos activités. C'est-à-dire que les ateliers, vous savez, on a plus de 17 sites maintenant, et comme vous l'avez dit, 850 participants par semaine. Mais tous nos animateurs, qui sont des artistes avant tout, contactaient les participants et leur offraient des programmes artistiques à faire à la maison. Et je dirais qu'on a sauvé plusieurs avec ça. Et là, on recommence les ateliers physiques avec toutes les mesures gouvernementales et même plus. On va à un niveau supérieur, c'est-à-dire masque en tout temps. On coupe le nombre de personnes en atelier. Là où je suis très, très, très surpris, c'est qu'on a très, très peu de gens qui ne reviennent pas. Au contraire, ils ont vraiment hâte de revenir.
Ils ont vraiment hâte de revenir en personne, mais vous venez de me dire quelque chose de très important. Vous m'avez dit que quand on pouvait pas faire des réunions en personne, que les artistes ont quand même, les animateurs ont quand même continué à contacter les gens et à leur proposer des ateliers virtuels. Vous dites on en a sauvé plusieurs. Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Palardy?
Ben, sauvé plusieurs dans le sens que on continue d'avoir un lien. On continuait de les encourager. On continuait un peu. Juste par exemple, des bons coups qu'on a fait, c'est habituellement l'été, on ferme les ateliers, mais cet été, on est allé porter directement plus de 500 kits d'été. Donc, même moi, j'ai participé, donc on allait directement chez nos participants avec un kit d'été qui comprenait un cahier pour faire des dessins, une revue pour découper, des crayons, etc., etc. Donc, ils se sentaient écoutés et supportés.
Parce que ça, c'est très important. C'est que toute la base de la pensée des impatients, c'est de dire on souffre de différents types de santé mentale, mais le fait de pouvoir dessiner, le fait de pouvoir créer, ça nous aide à se sortir de nous. Regardez, comme disait Daniel Bélanger, « Sortez-moi de moi ». C'est ça le but des impatients.
Définitivement, et c'est surtout créer, ça fait du bien, je pense que les gens le savent, ceux qui créent, tous ceux qui créent savent que ça fait du bien, mais c'est de briser l'isolement également, même dans la pandémie, on peut briser l'isolement de certaines façons, et d'avoir un outil justement pour s'évader, d'avoir un outil pour se reconnecter à soi-même quand tout va mal alentour de nous. Et ça marche. C'est très efficace. On est appuyé par les hôpitaux psychiatriques partout. On est très en demande. Mais là, je dis souvent maintenant, les gens savent c'est quoi être anxieux. Hein? Historiquement, les impatients, c'est... Oui. Historiquement, les impatients, ça a affaire à des cas beaucoup plus lourds, par exemple... la schizophrénie, les bipolaires, mais aujourd'hui, on a des ateliers à des jeunes anxieux, je pense à Sorel, des jeunes filles, des jeunes garçons de 11 ans qui vont plus à l'école parce qu'ils sont trop anxieux.
Êtes-vous sérieux?
C'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Et qui, dès les premiers ateliers, donc, par la force des choses, ils vont plus à l'école, donc ils ont plus de réseau. Mm-hmm. Et dès les premiers ateliers qu'on a à faire, ben, ils se créent des amitiés, ils se créent des groupes, ils échangent entre eux dans la beauté, dans la création, dans la liberté et dans le respect de la différence.
Dans la beauté, c'est important ça, Monsieur Palardy, parce que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, rappelez-vous, quand on était ces mois de confinement, Oh, je vais être un peu émue, mais à quel point c'est ça qui nous a sauvés. Il y a beaucoup de gens qui peut-être pas nécessairement souffraient de santé mentale, mais on a tous fait de l'anxiété ou un petit peu de dépression.
Oui. Angoir,
et
oui.
C'est pas pour rien qu'on s'est tous tournés vers la musique, des performances. On regardait des musiciens et des gens qui faisaient de la musique sur Internet, qu'on a vu des enregistrements de pièces de théâtre, qu'on s'est tourné vers la télé, oui, vers les films et tout ça, vers la lecture. On a besoin de beauté. C'est tellement important, oui, dans ces périodes difficiles.
Et ça, c'est peut-être pour les gens qui ne savent pas, la Fondation des jeunes personnes, ça a été fondée il y a 28 ans par ma mère. Et elle avait une galerie d'art à ce moment-là. Et c'était un de ses principaux critères, sortir la maladie mentale qu'on appelait à cette époque-là de la laideur. Donc, nos ateliers, d'ailleurs, sont offerts dans les plus beaux sites à travers le Québec. Par exemple, à Joliette, nos ateliers se donnent dans le musée directement. Mmh. On donne des ateliers dans les galeries d'art. La beauté fait partie de notre vie. Pourquoi? Vous parliez de l'art qu'on écoute, mais combien de personnes ont rénové leur maison?
C'est vrai. Justement,
pour être bien. Alors, comment on peut être bien dans un sous-sol d'hôpital tout gris avec des meubles dépareillés? Elle s'est battue contre ça et on continue de se battre contre ça. Elle l'a compris il y a 28 ans, aujourd'hui on le comprend encore plus.
Oui. Est-ce que vous notez par contre que depuis le début de la pandémie, il y a des gens qui peut-être en temps normal seraient pas venus vous voir et qui là vous contactent parce qu'ils se disent justement « je passe un mauvais quart d'heure, je passe un mauvais moment, puis j'aurais besoin justement d'être en contact avec la beauté, d'être en contact avec l'art ».
Ben, vous voyez, on débute, mais oui, on se fait approcher et ce qu'on fait, on va essayer d'innover aussi. Pour l'instant, nos ateliers sont tous offerts à des, disons, directement avec, on est directement en lien avec les hôpitaux psychiatriques. Oui. Il y a Desjardins Assurance qui fait un pas de géant, qui va offrir des ateliers de création à ses assurés.
Ah oui!
Oui, donc faut le noter, je pense que Desjardins est un produit totalement québécois, très innovateur, et les impatients, on va offrir également des, donc avis aux entreprises à l'écoute, on va offrir des ateliers à leurs employés, donc des séances d'ateliers aux employés qui justement ont besoin de créer, moi je pense aux gens qui restent à la maison avec 2-3 enfants, qui font du télétravail, qui voient plus personne. Ça a ses avantages, mais sortir et faire de la création, ou même on l'offre en Zoom, comme on dit,
oui.
Donc on s'appelle virtuel également, mais oui, il y a une clientèle, c'est sûr. J'ai souvent à la mauvaise blague qu'on est dans la très bonne business en ce moment, malheureusement.
Oui, malheureusement, mais en effet, il n'y a jamais eu autant de détresse, et ben, écoutez, cette idée-là, d'offrir des ateliers de création pour les gens qui font du télétravail et qui sont justement isolés, parce que ça crée aussi de l'isolement, le télétravail.
Ben oui.
Et d'offrir des ateliers pour ces gens-là. Quelle bonne idée. Ben écoutez, merci beaucoup, Monsieur Palardy. On vous souhaite évidemment que cet encan des impatients... J'adore le titre, hein, « Parlez-moi d'amour ». C'est un super de beau titre pour cet événement-là. Ça va se dérouler donc du 16 au 29 octobre au studio des 7 doigts. Et tous les fonds amassés vont permettre aux impatients de continuer à offrir gratuitement, chaque semaine et dans 17 lieux au Québec, des ateliers de création à plus de 850 personnes ayant des problèmes de santé mentale. Là, je fais juste lire le communiqué, là. Mais...
Oui.
Mais ça décrit bien ce que vous faites, Monsieur Palardy. Puis écoutez, merci beaucoup de continuer à faire ce que vous faites. C'est tellement, tellement important dans cette période plutôt sombre qu'on vit. Puis là, en plus, avec la deuxième vague qui nous frappe, différentes zones qui sont déclarées zones orange. Alors, merci de continuer votre beau travail.
Pour tous les détails, les impatients.ca, impatients avec un S.ca, informez-vous, ça vaut la peine. Le catalogue est déjà, le catalogue des œuvres est déjà en ligne, mais on peut miser à partir du 15 octobre.
Parfait, merci
beaucoup. Madame Durocher.
Frédéric Palardy, qui est directeur général des Impatients. Ben oui, à travers toute cette période assez sombre, il y a de la lumière, il y a de la création, il y a de la beauté. Quelle belle façon de terminer cette émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier Hugo Veilleux à la recherche et à la technique, à la réalisation, à la mise en onde. Ben oui, je vais finir par le dire. Sébastien Laperrière, merci beaucoup, puis on se retrouve demain. Au revoir.
Cube Radio.